Chacun de nous.
Au nom de Jésus.
Et quelqu'un m'aide à dire Amen.
Amen.
Je vous propose trois textes de la parole de Dieu. Le premier est assez long, mais c'est une lecture compartimentée. Matthieu au chapitre 24. Alors vous notez le verset 3. Verset 6 à 8. 11 à 13, 32 à 33, puis 42 ainsi que
44.
Voilà tous les toukoutoukou là qu'il dit là. Alors nous commençons par le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Et de la fin du monde. Verset 6. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des
douleurs.
Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 32 à 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. À la porte. 43-44. Sachez le bien. Si les maîtres de la maison savaient à quelle heure de la nuit les voleurs doivent venir, ils veilleraient et ne laisseraient pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 9 à 11. Après avoir dit cela, il, c'est de Jésus qu'il s'agit, il fut élevé pendant qu'il les regardait. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Terminons avec 1 Thessalonicien.
Au
chapitre
1er,
verset 9 à 10. Paul dit aux Thessaloniciens, car on raconte à notre sujet Quel accès nous avons eu auprès de vous? Et comment vous êtes converti à Dieu?
Hein?
En abandonnant les idoles.
Deux.
Pour servir le Dieu vivant et vrai. Trois.
Mais
écoutez les quatre. Et pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Quatre messages aujourd'hui oubliés et négligés par l'église de mon pays.
Et
si vous ne connaissez pas mon pays, c'est la République démocratique du
Congo.
Les premiers jours, nous avons posé les bases ainsi que les fondements lors d'une grande et longue introduction.
Et
notre passage de base était Matthieu 23,
verset 23.
Quand Christ reprend ces groupes de personnes, il dit: pourquoi vous accordez beaucoup d'importance à la dîme de la menthe, de la nette et du cumin? Et vous laissez ce qui est plus important dans la parole de Dieu. Vous laissez la justice, vous laissez tout ce qui concerne l'attachement, la relation avec Dieu. Et j'aime comment il conclut ce verset. Il dit: c'est ce qu'il fallait pratiquer, d'autres versions disent en premier, sans négliger les autres. Il
ne
veut pas dire que les autres sont ce point important, mais il veut dire que les premières choses restent à leur place. Et depuis mardi, nous avons commencé à parler du premier message, négligé et oublié. Le message de la repentance. On enseigne beaucoup, mais on ne revient plus sur ce message important. Le deuxième message important, oublié aussi négligé, c'est l'abandon des œuvres mortes. Et le troisième message, nous en avons parlé hier, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et le quatrième message, oublié et négligé, c'est celui du retour de Christ.
Et
je dois avouer, si tous les quatre messages sont négligés, il n'est pas impossible que le quatrième soit le plus négligé des trois. On nous enseigne aujourd'hui sur comment régner sur la terre, comment prospérer, comment l'église est appelée à influencer son monde.
Mais
on nous parle très peu ou de moins en moins de celui qui vient bientôt, du grand rendez-vous que nous avons. Et l'enseignement de ce soir, je l'aborde en quatre points. Le premier point, je parlerai de Jésus, les apôtres, l'église primitive. Et le message de son retour. Le deuxième point, je parlerai de l'importance de ce message dans l'église. Ce qui arrive lorsqu'il est enseigné et ce qui arrive lorsqu'il n'est pas enseigné. Et les deux derniers points que je prendrai comme des appendices. Le troisième, je parlerai depuis quand ce message n'est plus beaucoup prêché et pourquoi. Et puis je toucherai le quatrième point, c'est que faut-il faire maintenant? Avant 5 minutes de conclure cette merveilleuse semaine, en parlant de Dieu et les enseignants négligents. En lisant les Écritures, en partant des quatre évangiles et en allant tout au long des épîtres, nous voyons l'emphase que Jésus-Christ lui-même, les apôtres plus tard et l'église primitive ont eu à mettre sur son retour. Jésus lui-même a parlé et il a enseigné sur son retour. Dans Jean chapitre 14, au verset 2 à 3, il a fait une déclaration forte et solennelle en 5 points. La première chose, il a confirmé qu'il y avait plusieurs demeures dans la maison de son père. Il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. La deuxième des choses qu'il a affirmé avec force, il a certifié que ce n'était pas une fausseté, ce n'était pas une utopie. Il a dit, si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je ne vous en parle pas simplement pour vous encourager. Je vous en parle parce que je viens de là et je sais que c'est vrai. La troisième des choses, il a déclaré qu'il était l'acteur principal qui s'occupait de tout apprêter. Il a dit, je vais vous préparer une place. La quatrième chose qu'il a mentionné avec toute l'autorité, il a confirmé à ses disciples deux mouvements. Un départ, mais aussi un retour. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il a promis avec force, je reviendrai. Il y aura un aller et il y aura un retour. Je reviendrai. La cinquième chose, il a confirmé le but de ce retour. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Déclaration forte, déclaration solennelle. Dans Matthieu 24, du 3e jusqu'au 44e verset que nous avons mentionné, il apporte plusieurs informations en rapport avec cet événement. Il en a apporté plusieurs, mais je vais épingler 5 au total. Certes, lui-même a enseigné qu'il allait revenir. La date de ce retour est inconnue. Et que seul le Père avait les détails sur les retours.
Exact.
Mais il a donné des indices attachés à ces moments. Première chose, au verset
6e,
il parle des signes à caractère social. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Malgré l'ONU, il n'y a jamais eu autant de guerres dans le monde. Après la Première Guerre mondiale, on a établi l'embryon de ce qu'on a appelé la Société des Nations. Et après des millions de morts, après la Seconde Guerre mondiale, on a inventé l'ONU en disant comme devise, plus jamais ça. Mais malgré ça, il n'y a jamais eu autant de morts après. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerres. Il semble que c'est parmi les industries qui font rentrer le plus d'argent, c'est les industries d'armement. Et eux-mêmes qui fabriquent des armements pour que ça ne puisse pas chômer, ils doivent provoquer des situations. Et des fois, ils vendent aux deux camps. Un peu comme les vendeurs de cercueils qui prient que ces affaires marchent. Sans le savoir, quand il dit que mes affaires marchent, il prie pour que nous mourons. Mais il dit, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais il dit, ça ne sera pas encore la fin. Deuxième signe qu'il montre au verset 11. Des signes religieux. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils
ne
diront pas qu'ils sont faux, mais ils auront la fausseté en eux. Et il dit, ils séduiront beaucoup de gens. Alfred Kouan dit, de nombreux faux prophètes surgiront. Et ils entraîneront beaucoup de personnes dans l'erreur. Ils
ne
vous diront pas que je prêche l'erreur, j'enseigne l'erreur. Troisième signe, des signes à caractère moral. Par deux signes, l'accroissement du mal et le refroidissement de la charité. Et la charité dont il est question, c'est l'amour vis-à-vis de Dieu.
Le
verset 12 dit, parce que l'iniquité se serait accrue. Le mal va aller en croissant. Il y a des comportements hier qui étaient des comportements marginaux, condamnables.
Mais
aujourd'hui, il y a des codes pénals qui, plutôt des codes dans les pays qui les sanctionnent comme conduite acceptée. Code civil, j'allais dire. Il y a 20 ans en arrière, on ne pouvait jamais s'imaginer que dans certaines nations, on accepterait l'homosexualité. Il y a moins de 10 ans en arrière, nous tous nous avons célébré quand un pays de l'Amérique du Nord a pour la première fois élu un président noir. Je n'ai pas peur de le dire, je t'en engage que moi. On n'avait aucune idée que c'est un agent du diable.
Amen.
Non seulement qu'il a brisé les barrières de l'homosexualité dans son pays, Mondrian en devient l'ambassadeur. Partout il va, même dans des pays étrangers, il va imposer ça. J'aime beaucoup un président africain qui a l'essence de l'humour. Il a dit, s'il veut introduire ça dans son pays, qu'il vienne, lui veut l'épouser, lui. Mais ces choses sont en train de se passer devant nos yeux. Le décor est en train de se mettre en place devant nos yeux. Les barrières sont en train de plus en plus d'être poussées. J'ai suivi un débat un jour au Parlement français et j'ai tremblé. Quelqu'un dit, les barrières morales imposées par le judaïsme doivent tomber. Aujourd'hui, ce sont des barrières attachées à l'homosexualité qui tombent. Demain, si quelqu'un veut épouser sa fille ou une maman veut épouser son fils, on doit les laisser. Tout ce qui appartient au judaïsme doit tomber. Je t'entends dire, ça n'arrivera pas, mais qui pensait que l'homosexualité arriverait là où elle est arrivée? Et alors qu'on interviewait les gens, une dame a dit, moi, dans les jours qui viennent, je vais me battre. Si mon chien et moi, on veut se marier, on se marie. mariera.
Les
jours qui sont devant nous sont dangereux. La moralité déjà en baisse ira encore en baissant. L'iniquité va s'accroître et la charité du plus grand nombre se refroidira. Alfred Cohen dit, et comme les gens voudront de plus en plus vivre sans foi ni loi, il dit le mal fera des progrès constants.
Verset 32
à 33. Une possibilité de discernement de ce temps nous est donnée. En faisant le parallélisme avec les saisons. Instruisez-vous en comparant les figuiers, dès que ce feuille devient tendre et que le feuille pousse, sans avoir fait des études, sans être un météorologue, vous connaissez que l'été est proche. Et le Seigneur nous donne à nous, enfants de Dieu, la possibilité de discerner. Il dit de même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Et pourtant, ces choses se mettent en place. Et l'Église n'en parle pas. On nous dit, reçois, prospère. Et tout le décor est en train de se mettre en place. Alfred Cohen dit, quand vous verrez tous ces événements se produire, vous pouvez être certain que le grand jour est proche. Un jour vient, nous serons au culte. Les modérateurs diront alléluia, nous ne répondrons pas amen ici, nous répondrons amen en montant. Un jour vient où la trompette va sonner et les morts en Christ ressusciteront et nous serons restés vivants, nous serons changés et en un clin d'œil, nous irons à la rencontre de celui que je prêche sans l'avoir vu. Mais en ces jours-là, nous les connaîtrons comme nous avons été connus. Je sais que quand nous serons là au nom de nous, je dis nous serons parce que moi j'y serai. Je sais que vous serez pressé de voir d'abord celui qui vous a sauvé. Après vous serez ravi de voir votre héros. Quelqu'un cherchera David. Ouais, puis David.
Faites-le l'histoire. Comment t'as pu tuer Goliath?
Moi je chercherai Paul. Mais j'aimerais vous dire, même après 1000 ans, cherchez-moi aussi, car j'y serai. Et quand on se verra, oh, pasta to combien? Et tindoto.
Amen.
J'entends les bruits qui annoncent qu'il vient bientôt. Cinquième chose, c'est l'appel à la vigilance qui doit être le rôle de l'Église. Verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez quel jour le Seigneur viendra. Verset 44, c'est pourquoi tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure même où vous n'y pensez pas. Alors qu'il était en train de monter, et les disciples pensaient vivre un rêve, les deux créatures célestes les ont dit de la même manière, vous l'avez vu partir. Ils
n'ont
pas dit c'est possible. Il y a des pourcentages. Ils ont certifié, il reviendra
bango,
de la même manière.
Ba, pesi bango elikete, akozonga na lolenge moko.
L'Église primitive a prêché et enseigné cet événement.
Ecclesia liboso et teakipe, la kisa kilikona likamboyo.
Acte 17.
Verset
30 à 31. On lui dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. annonce maintenant tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où
il
jugera le monde selon sa justice. Et nous l'avons lu concernant les Thessaloniciens. En Thessaloniciens 1:10, ils se sont convertis, ils ont tourné la page des œuvres mortes. Mais la Bible dit, ils attendaient aussi des cieux le Fils qui a été ressuscité. L'église primitive attendait tellement cet événement qu'en lisant les écrits de Paul, on dirait qu'il croyait même que cela allait arriver en son temps. Écoutez comment il en parle. Dans Thessaloniciens 4:15-17. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Il s'est mis lui-même dedans. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ resteront premièrement.
Wow,
écoutez le verset 17. Et nous les vivants, il croyait que ça allait arriver en son temps. Il attendait cela. 1 Pierre 4:7. L'apôtre Pierre croyait aussi que ça allait arriver en son temps.
Il
disait, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Jacques a abondé dans la même direction. Jacques 5:8-9. Vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. Au verset 9, il dit, voici le juge est à la porte. Si à l'époque il sentait qu'il était à la porte, à combien plus forte raison
aujourd'hui?
1 Jean chapitre 2, au verset 18, l'apôtre Jean parle de son époque comme étant la dernière heure. Il dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Si à son époque c'était la dernière heure, je peux le dire sans être contredit. Aujourd'hui, c'est la dernière seconde. Les derniers livres de la Bible. Et quasiment les dernières phrases. Se termine par deux déclarations. Celui qui a tête ces choses dit, oui, je viens bientôt. Mais aussi par une réponse, amen, viens Seigneur.
Ce
sont les gens qui attendent et qui souhaitent qu'ils
reviennent.
Mais non seulement qu'ils avaient conscience de son retour. Ils avaient une deuxième conscience forte. Qu'ils étaient des passagers sur la terre. Hébreux 13:14. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente.
1 Pierre 2:11.
Pierre dit, nous sommes étrangers voyageurs. Philippiens 3:20, l'apôtre dit, notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité est dans les cieux. Mais au-delà de ses retours et avant peut-être qu'il vienne, il est possible que toi et moi nous partions. C'est pourquoi Amos crie.
Amos a gangi.
Au chapitre 4, au verset 12, dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'on dit que chaque minute qui passe, entre 180 et 200 personnes au monde meurent. Souvent nous pensons que ça n'arrive qu'aux autres.
S'il
ne revient pas, tout peut arriver. Que tu franchisses le seuil entre le temps et l'éternité. Il y a deux jours, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Une petite nièce que j'ai vue grandir, très jolie petite fille, Sylvie elle s'appelait. Je l'ai portée toute petite. Et mercredi aux premières heures du matin, elle est morte.
À Brazzaville.
Elle est allée dans la salle de bain. Simplement pour se laver. Et puis les gens ont entendu dehors comme si un sac est tombé. Et c'est une crise cardiaque. Qu'est-ce qu'elle a fait comme problème? On ne sait pas.
Prépare-toi
à la rencontre de ton Dieu. J'oublie jamais les chocs que j'ai eu en février 2012. Cet homme qui a servi le Seigneur avec moi très jeune à l'église de la Borne. Il a connu quelques problèmes dans sa vie. Et de temps en temps, jeudi et des fois dimanche, il venait au culte. Il m'appelait toujours Yadalo, comme beaucoup m'appellent.
Et
on se voit dimanche à la fin du culte, il dit Yadalo, j'ai des choses à te dire.
On
s'est fixé rendez-vous lundi matin à l'hôtel Memling. On s'est retrouvé de 8h à 9h30. J'oublie jamais à la fin, je suis allé déposer vers Kimpuanza. J'ai crié sur lui, j'ai grondé sur lui. Je l'ai conseillé par rapport à certaines choses. Et on se donnait rendez-vous, on allait s'appeler samedi à
16h.
Samedi à 9h30, je suis au bureau en train de lire maintenant du message le dimanche. Je reçois un coup de fil. Blaise Sakila Ngoma est mort. Je dis, c'est pas vrai, j'étais avec lui lundi, on s'est
dit.
45 minutes après, je me retrouve à la morgue de Clinique Ngaliema. J'oublierai jamais cette image. Je revois encore son survêtement de sport bleu. Je vois encore son t-shirt noir. Je vois encore ses mains avec de petits trous sur moi. On a voulu les perfuser, on cherchait sûrement quelque chose. J'ai dit, mais pourtant lundi on était ensemble. Et pourtant on s'est promis de s'appeler. Je revois encore comment on fait rentrer son corps pour le placer dans ses coffrets. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand cela va-t-il arriver? S'il ne revient pas, c'est toi qui peux aller. Dans Psaume 39, verset
5,
j'aime ce psaume. David l'a chanté. Non pas quand il était berger au sommet de sa gloire. Il dit, Seigneur, montre-moi les termes de ma vie.
Mais
va plus loin, montre-moi comment je suis fragile. L'humain, nous sommes fragiles. Mais 92 kilos.
92 kilos.
Un petit être difficile à voir à l'œil nu va me bousiller toute la vie. Fragile. Un morceau de ferraille appelé balle. Ça rentre, ça touche là.
Et
tout s'arrête. Fragile. Fragile. 17, verset 26. L'apôtre Paul enseignant à l'aéropage. Il dit Dieu a établi les bornes et les limites de notre vie. Il y a peut-être quelqu'un ici ce soir. Le dernier endroit qui t'amènera sous terre.
Ce
n'est pas encore un arbre qu'on doit couper, polir. C'est peut-être déjà prêt. C'est même pas encore un arbre qui doit grandir. C'est peut-être déjà quelque chose de prêt. Demain ne t'appartient pas, ne m'appartient pas. Et l'Église, nous devons préparer les gens à la rencontre du Seigneur. De par son retour, mais les préparer à les rencontrer n'importe quand. Un jour, je partirai. Ça c'est moi, je souhaite que ce soit le plus tard possible. Mais c'est lui qui décide. Mais j'ai appris à être prêt chaque jour en les enseignant, quelle que soit l'heure où ça va arriver. Dans l'œuvre de Dieu, j'ai vu toutes sortes d'âges mourir, j'ai vu des petits, j'ai vu des grands. J'ai vu des bébés, j'ai vu des morts-nés. J'ai vu certaines personnes fatiguées de la vie, désirer que Dieu les prenne, il les prend. J'ai eu un choc à Nairobi. En
98.
Invité à un mariage. Là, les mariages se passent l'avant-midi.
On
est arrivé à 10h, le mariage devait commencer à 10h30. La mariée était déjà là dans le véhicule attendant que le marié puisse
venir.
10 minutes de retard, 15 minutes. Et puis on m'a appelé de côté du pasteur, ça c'est le temps pour les gens comme vous de jouer votre rôle. Le marié vient de connaître un accident, il est mort sur le
champ.
Je regardais cette jeune fille en robe blanche qui rêvait que c'est le plus beau jour de sa vie et c'est devenu son cauchemar. Nous chantions autrefois, Jésus revient, Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Et ça, c'est le rôle de l'Église. Et ce message est d'une grande importance. Ce message est important pour deux raisons. La première raison, quand l'Église enseigne ce message, il garde les croyants éveillés. Et il influence leur qualité de vie ainsi que leur marche. Frères et sœurs, nous ne continuerons pas à vivre ainsi. Romains 13, 11 à 13. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus proche de vous que lorsque vous avez cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres. Et revêtez les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès. Loin des excès, loin de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité. J'oublie jamais ce mercredi de
1988.
Le feu Jacques-André Vernon prêchait sur le retour du
Christ.
Je tremblais de tout mon être. Il avait le sens du sérieux de la solennité. Vers la fin de son message, il terminait, disait, Jésus peut revenir n'importe quand. Rien ne me rassure que je peux finir ce message, il peut revenir avant que je termine.
Il
dit, même si j'ai terminé ce message, rien ne me rassure que je prendrai mon véhicule et j'arriverai à la maison, il peut revenir.
Il dit,
même si j'arrive à la maison, rien ne me rassure que je vous verrai demain. Et un tel sentiment nous garde dans la droiture. Nous gardons la crainte de Dieu. Ça peut arriver n'importe quand. Thessaloniciens 5, 6. Parlons de ces jours et de l'attitude à avoir dit. Ne dormons point comme les autres. Ne nous assoupissons pas. Alfred Cohen dit, ne nous laissons pas gagner par le sommeil qui plonge les restes des hommes. Luc 21, 34 à 36 dit, prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent vous prendre à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de la terre. Verset 36, veillez donc et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Deuxième chose qui rend ce message important, quand nous avons le sens de son retour, il stimule le croyant et l'église à faire la mission, à évangéliser, à gagner des âmes. Car nous ne sommes pas citoyens de ce monde éternellement. Je l'ai dit il y a quelques semaines ici à Philadelphie. Votre ami, votre oncle, votre tante, votre cousine, que vous n'évangélisez pas, il passera pas de vacances en enfer. 3 mois, 6 mois, puis Dieu dit, bon,
la Bible dit,
ils resteront au siècle des siècles. Éternellement. Et si nous avons le sens de son retour, nous voyons le salut des âmes. Matthieu 24, 14 dit que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. J'aime la parabole des conviés. Dans Luc 14, verset 23, et surtout les termes que le Seigneur utilise. Des gens qui auraient dû prendre part au banquet ne sont pas venus. Et le maître a vu que son banquet était prêt. Écoutez ce qu'il dit à ses serviteurs. Allez dans les chemins, les longs des haies. Et ce que vous allez trouver, contraignez-les. Obligez-les. Quand l'église est consciente du retour, l'église contraint. Français courant dit, obligez-les. Tob dit, forcez-les. Alfred Cohen dit, insistez. J'oublie jamais cette jeune fille de mon quartier à Lausanne en 87. On l'appelait Miss Kamunganga, c'est mon quartier. Un jour, je la rencontre avec mon jeune frère, on est en train de lui prêcher. Il disait, « Yaro, la boutique, on a fait un bourg, on croit dans mon zali. »
Laissez-moi, je dois vivre, je dois jurer de la vie parce que je suis jeune.
Il a attendu, Yaro, mais tiens à l'aise.
Donnez-moi du temps, laissez-moi en paix.
5 jours après, je repasse par le même coin. Je vois les jeunes gens du quartier bleu, tout autre chat bleu, petit mouvement koufi. Et quelle photo je vois? Celle qui disait, Nabuka Mokua.
Laissez-moi jouer de la vie.
je suis rentré avec une grande culpabilité.
Je
dis, j'aurais dû insister ces jours-là. J'aurais dû insister. J'oublie jamais un cas de deuil pour lequel je me suis retrouvé avec une grande culpabilité.
C'était
notre voisin et j'ai prié un matin après ma conversion. Dieu m'a dit, Roland, il lui reste 3 mois. J'ai dit 3 mois. Je me souviens, je suis allé lui parler. Il avait 19 ans. Il a dit, Roland, on en parlera un autre jour. J'ai voulu insister. Il a dit, Roland, n'insiste pas. Dix jours après, j'apprends qu'il est rentré dans les comas. Je commence à prier, Seigneur, s'il pouvait sortir du coma et que je lui parle. 5 jours après, j'apprends qu'il est mort. J'oublie jamais quand son corps était exposé. Je disais, Seigneur, suis-je responsable de son éternité? J'aurais dû insister ces
jours-là.
Quand l'Église a conscience de son retour, elle a conscience de sa mission. Mon pasteur disait cette belle phrase que je n'ai jamais oubliée. Et tous les croyants et les sauvés sont responsables du destin éternel de tous les païens qui partagent avec eux la même époque. Est-ce que vous leur avez parlé? Est-ce que vous leur avez influencé? Cela me fait penser à Genèse 19:15-16. Alors que les dangers guettent la famille de Lot, et ces trois créatures viennent, les leur dit, il faut partir. La Bible dit, ces gendres pensaient qu'ils plaisantaient. Et verset 15 dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot. Quand l'Église est consciente de son retour, l'Église va insister. Lève-toi. Prends ta femme et tes 2 filles. Écoutez le verset 16. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main. Contrainte, sortez. Ça me fait penser à 2 Timothée 4. Verset 1 à 2. Où l'apôtre dit, au nom de son apparition, de son règne, prêche la parole. Insiste. En toute occasion, favorable ou non. Pourquoi insister? Parce que tu sais qu'il revient. Lorsque ce message n'est pas enseigné ou n'est pas rappelé dans l'Église, 2 choses se passent. La première, même les chrétiens les plus forts tombent dans la torpeur, dans la routine, et dans ce que l'apôtre appelle dans Hébreux 10, 24, l'assoupissement. Nos églises, on ne parle plus beaucoup du retour du Seigneur. Deuxième chose qui arrive quand ce message n'est pas enseigné, l'Église ne joue plus son rôle d'amener les âmes, même par la contrainte, au salut. Alors je me réconclue. Depuis quand ce message n'est plus beaucoup prêché et pourquoi? Souvenez-vous des 4 vagues que j'ai mentionnées depuis lundi. La première vague a enseigné ce message. La deuxième aussi. La troisième aussi. Et même la quatrième un peu au début. Et puis la quatrième a eu plusieurs autres priorités. La quatrième vague n'insiste plus sur ces choses. Ah, la quatrième vague a un peu enseigné cela.
Ah, mbonge amine, la kisa kili kona ngo mwa moke.
Même avec force, même avec excès.
Pe atena makazi, pe atena kolekisa kutu.
À l'approche du 1er janvier 2000.
Yambo ya mokoya liboso ya l'an 2000.
Quand il y a eu comme une forme de paranoïa.
Tango batonyo sobane ko banga likama mabe komela bango.
Non, les ordinateurs du monde entier, quand ça passera à 2-2, et puis on a commencé à faire des calculs 2000 ans depuis Abraham, 2000
ans.
Même les païens avec P majuscule se sont rangés un petit moment. Et puis c'est passé. C'est la routine. Pourquoi l'Église n'enseigne-t-elle pas ces choses?
Pour
les mêmes raisons que nous avons mentionnées hier. Donc principalement trois. La première, c'est stratégie de l'ennemi. Deuxièmement, infiltration des faux qui diluent les vrais messages.
Et
troisièmement, distraction et négligence.
Bon,
au-delà de ces trois raisons essentielles, il y en a deux autres. Pourquoi? Parce qu'à part le message du baptême dans le Saint-Esprit, il y a trois messages qui sont liés. Ceux qui enseignent sur la repentance et l'abandon des œuvres mortes finissent toujours par enseigner sur les retours. Et dès l'instant où on abandonne ces deux messages, on a difficile à toucher les troisièmes. Celui qui prêche la repentance finira par prêcher les retours. Deuxièmement, à cause de l'époque dans laquelle nous trouvons. Tu nous aides pas à écouter ce genre de messages. Parce que 2 Timothée 4, verset 3 dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine.
Et
ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables.
Et
c'est dans cette période que nous nous trouvons. Parler de ça, c'est pas agréable. J'ai entendu un homme, on lui a dit, papa, si tu continues ma terre, il y aura un pasteur
Piaquet. Si tu continues avec de tels messages, tu mourras pauvre.
Le message à Boéto nous a refroidi du prophète, papa.
De telles prédications, tu vas mourir affamé.
Si tu travailles pour l'offrande du prophète, j'ai pitié de toi. Que faut-il faire maintenant? Trois choses. La première, faire comme Daniel. Dans Daniel 9, 1 à 19. Prendre conscience qu'il a péri et prier. Parce que quand le Daniel prie, Dieu lui-même réveille l'esprit de Cyrus. Église, si nous prions, Dieu réveillera même ceux qui se sont endormis. Et ce vieux et bon message va revenir à la table. Là où tout a échoué, la prière est réussie. Ne critiquons pas, ne murmurons pas, ne pointons pas du doigt. Prions. Pratiquons ce que mon ami, il faut qu'on dise cela, dit la généalogie. Daniel n'avait aucun contact avec Cyrus. Mais lui, il s'est mis à genoux. Il avait dit, l'esprit de Cyrus fut réveillé. J'aimerais dire, la prière des saints a une efficacité. Donnons-nous des gens qui vont monter à Mangengenge qui prieront. Église du Congo, Seigneur. Deuxième des choses à faire. Faire ce que l'on peut faire à son niveau. Ecclésiaste 11, verset 6 dit, fais ce que tu fais, tu ne sais pas ce qui va réussir. C'est pourquoi nous enseignons peut-être à 7000 personnes qui viennent depuis lundi. Et nous demandons votre aide pour mettre ça dans les médias afin que le plus grand nombre entende. Et nous le croyons. Ce message ne s'envole pas comme la fumée. Il y aura certains qui vont nous lancer des flèches. Mais il y aura d'autres qui reviendront.
Amen.
Quand je priais, Dieu m'a dit, Roland, compte les trois ans qui vont venir. Tu verras des Nicodème venir te voir la nuit. Reçois-le et n'en parle pas. Nicodème, je t'attends. Viens même la nuit, mais reviens. Dieu m'a dit une bonne nouvelle. Il m'a dit plusieurs de tes aînés ne mourront pas dans cet état. Ils reviendront parce qu'ils ont la semence de Dieu.
Amen.
Quelqu'un qui a goûté à Dieu, le péché n'a pas le même goût pour lui. À moins qu'on n'ait pas goûté à Dieu. Troisième chose, avoir comme Néhémie la foi que les choses peuvent changer. Néhémie chapitre 1 au verset 20, il a prié, il a dit, donne du succès. Il croyait que ceux qui étaient tombés pouvaient se relever. Je ne crois pas que l'église de mon pays, l'église pour laquelle Aïdi Nabal a payé le prix, pour laquelle Jacques André Vernon a donné sa jeunesse, Makanzu Mavumilou a donné sa vie, les quatre messagers ont mis leur jeunesse de côté. Je ne pense pas que cette église sera enterrée en première classe. Je crois à la résurrection. Je crois à la résurrection. Un très grand prix a été payé dans ce pays. Je termine. Dieu et les enseignants négligents. Aux hommes et aux femmes de Dieu, j'aimerais vous dire trois choses. Je l'ai dit le premier jour. Avoir la possibilité de prêcher, d'enseigner et de parler aux autres est un couteau à double tranchant. D'un côté, c'est un privilège. Mais l'autre côté, c'est une grande responsabilité. J'oublie jamais le dimanche 24 février.
Le 24 février.
Premier culte du centre missionnaire Philadelphie.
1250
personnes.
1250.
Et cet homme qui était là, le pasteur Faustin, après avoir prié pour moi, il m'a dit, Roland, bateau,
Roland, où vas-tu amener tous ces gens? Vas-tu les amener au ciel ou à la perdition?
Je n'ai jamais béni Dieu pour ces paroles dites au bon moment. Beaucoup n'ont pas le privilège comme moi d'avoir un aussi grand auditoire. Privilège. Ça mingi, fait du bien à l'ego, mais grande responsabilité. J'ai vu un homme de Dieu aux États-Unis, on dit son église est tellement grande qu'il se réunit dans un stadium, 120 000. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il leur enseigne? Qu'est-ce qu'il leur dit? Je n'ai parlé ici lundi. Il y a des gens qui ne prêchent plus l'évangile. Écoutez comment ils s'appellent des motivateurs. Des coachs spirituels. Jacques 3, 1 dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement. Privilège, mais responsabilité. Et quand je parle ainsi, je suis dans la joie de voir un homme de Dieu.
Un
aîné pour moi qui sert le Seigneur dans la région parisienne.
Pasteur
Guilin, lève-toi enfin qu'on t'honore. Merci d'être venu. Non seulement seul, mais avec son épouse. Maman, levez-vous. Est-ce que Philadelphie peut? On se verra à la fin. Deuxième des choses, aux prédicateurs, faisons attention. Car notre oubli et notre négligence personnelle n'arrête pas les conséquences sur nous. Les conséquences vont jusqu'à sur ceux qui nous écoutent. Quand un homme de Dieu se perd, il enseigne plus certaines choses et il influence la qualité de vie de ceux qui l'entendent. Seigneur, garde-moi de me perdre. En Timothée 4, 16,
Timothée a liboso,
l'apôtre dit à son fils, veille sur toi-même, mais veille aussi sur ton enseignement. Je termine avec cette lecture, mais je prie qu'on la fasse. La dernière des choses, souvenez-vous des paroles du Seigneur adressées au pasteur négligent. Alors que les musiciens savent, je vais simplement lire, je ne vais même pas commenter, on va prier
et finir. Ézéchiel
34, du premier verset au septième. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël. Je dirais malheur aux pasteurs au berger du Congo. Qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître les troupeaux? Verset 3. Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Et vous n'avez fait point paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades. Vous n'avez pas pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées. Parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Se sont dispersés. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne les cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. J'ai à cœur, alors qu'on termine, ici à Lisanga, que tous on se mette à
jeûner. Je suis touché, je suis touché. Je suis touché.